Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment fonctionne le fonds de solidarité contre Covid-19? Nous accueillons aujourd'hui le révérend Dominique Moukanya, coordonnateur de ce fonds de solidarité. Révérend Dominique, bonjour.
Bonjour, c'est jeudi.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service, des questions et préoccupations par rapport au fonctionnement, au rôle et au fonctionnement du Fonds des solidarités contre Covid-19. Appelez au 081 890 63 94. Le standard est déjà ouvert. Écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de la résurgence des cas de Covid-19 en RDC. Comment faire face à cela? Nous allons accueillir dans cette émission le professeur Steve Aouka, chef du département de virologie à l'INRB, et docteur Michel Mouvoudi, expert en santé publique, membre de l'équipe des Riposte, sera notre invité. Merci de votre fidélité à Okapi Service. Pour participer, je rappelle le numéro, le 081, composé le 081 890 63 94. Alain Goy à la technique, Tati Mapoukou assure la réalisation, Marcel Ngombo à la coordination. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, art plastique, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Bienvenue encore une fois dans cette émission Okapi Service. Aujourd'hui, nous parlons du fonctionnement du fonds. Nous allons parler du fonds des solidarités contre Covid-19. Eh bien, le fonds des solidarités contre Covid-19 existe depuis le mois d'avril dernier. Et cette structure a été créée par le chef de l'État avec comme mission de rechercher et de collecter des moyens financiers destinés à aider les personnes physiques ou morales, les personnels médicaux soignants et les services médicaux ou hospitaliers dans le cadre de la campagne de riposte contre coronavirus, sans oublier l'appui aux entreprises touchées par les conséquences socio-économiques du Covid-19, de cette pandémie. Alors, comment s'est fait la mobilisation des fonds? Quels sont les critères pour bénéficier de l'aide de cette structure? Qui peuvent contribuer? Quelles sont les réalisations? Qu'est-ce que ce fonds a déjà réalisé jusqu'à ces jours? Eh bien, nous aurons les réponses à toutes ces préoccupations avec notre invité. Il s'agit du révérend Dominique Moukanya, coordonnateur du Fonds des solidarités contre Covid-19. Révérend Dominique, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody.
Alors, pouvez-vous d'abord nous rappeler dans quel contexte ce Fonds des solidarités a été créé?
Bien, comme vous l'avez dit déjà dans votre introduction, le Fonds national de solidarité contre le coronavirus a été mis en place dans un contexte de lutte contre la pandémie à Covid-19. Et c'est pour lutter justement contre ce fléau qu'il a plu au chef de l'État, à qui nous rendons un hommage déférent, de mettre en place ces structures. C'est un service spécialisé de la présidence nationale qui appuie, n'est-ce pas, la riposte contre, dans la lutte contre le coronavirus.
Et quelle est la mission de ce Fonds national de solidarité?
Bon, selon les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance portant création de ce fonds, il est dit clairement ce qu'il suit, que le fonds a pour mission de rechercher, collecter des moyens financiers destinés à servir sous forme d'aide, assistance, soutien aux personnes physiques, morales, aux personnels médico-soignants, aux services médicaux et hospitaliers, et aussi soutenir les entreprises et les structures économiques qui ont été touchées particulièrement par les conséquences économiques, financières et sociales de la COVID-19.
Bien. Alors, est-ce que le fonds travaille avec, vous avez peut-être une estimation du budget ou des montants qu'il faut réunir pour porter assistance à toutes ces catégories de personnes dont vous faites allusion?
Bon, on ne peut pas estimer directement le niveau d'intervention que nécessite les financements du fonds, mais il faut se reporter au programme qui a été porté à la connaissance du public par le professeur Muyembe, qui est un plan de riposte, et nous tous, nous nous inscrivons dans ce plan de riposte. Et vous savez que ce plan avait estimé à peu près le niveau d'intervention à 129 millions de dollars, si je ne m'abuse. Ça, c'est le besoin de la riposte.
Oui.
Et maintenant, nous nous inscrivons dans ce plan de riposte avec notre contribution.
Voilà, donc on peut dire que vous travaillez en collaboration, vous venez en appui au comité des ripostes contre la COVID-19.
Affirmatif, c'est ça justement, puisque quand vous regardez la composition du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, vous trouverez que le troisième nom parmi les membres, il y a le professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum, qui fait partie du comité du fonds, du comité de gestion. Donc il est là pour nous apporter son expertise et nous rappeler chaque fois les besoins de la riposte. Et nous travaillons pour l'accompagner.
Et les autres membres du comité sont les responsables religieux, les différents responsables religieux?
Bon, pas nécessairement des responsables religieux, c'est des laïcs qui sont délégués par les responsables, les confessions religieuses. Nous avons par exemple le coordonnateur adjoint, il est laïc, c'est un médecin, mais il est délégué par l'Église catholique. Il y a des délégués de la communauté islamique, de l'Église kimbanguiste, de l'Armée du Salut, des délégués de la société civile, du mouvement féminin, il y a un délégué de la task force présidentielle, qui est Dr Roger Kamba, il y a les délégués de la FEC, délégués de la NEP, et aussi un délégué du cadre de concertation de la société civile et aussi de la société civile de la RDC.
Alors, dites-nous, révérend Dominique, quelles sont les stratégies mises en place pour collecter les fonds ou les biens nécessaires dont vous avez besoin pour porter à assistance aux autres qui sont affectés par la pandémie?
Bon, pour définir les stratégies, nous nous référons d'abord aux dispositions de l'ordonnance qui définissent l'origine des ressources du fonds. Selon l'article 4 de l'ordonnance que j'ai évoqué tout à l'heure, le fonds est alimenté par l'État. Et ça, il faut bien noter. C'est alimenté par l'État, et sur une base volontaire par les provinces, les entités territoriales décentralisées, les entreprises publiques ou privées, les bailleurs de fonds, les partenaires et toute autre personne physique ou morale de droit public ou privé. Et nous, sur base des dispositifs de cette ordonnance, nous faisons la mobilisation de proximité. Nous allons vers nos bailleurs potentiels, nous formulons des demandes d'audience, nous discutons vraiment face à face avec les concernés pour déterminer les besoins et voir dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner. Et c'est comme ça que nous faisons plus une mobilisation de proximité, mais nous sommes en train d'envisager maintenant comment recourir à une mobilisation publique des ressources, en passant par les médias, en passant par d'autres stratégies comme l'organisation des tables rondes, des soirées.
Des soirées des collègues des fonds et autres.
Voilà.
Eh bien, comment fonctionne le Fonds national des solidarités de lutte contre coronavirus? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Vous avez des questions et préoccupations? Le standard est déjà ouvert. Composez le 081 890 63 94. Nous avons deux auditeurs en ligne, Joël Aziz de Mbandaka et John Odian depuis Isiro. Joël Aziz, bonjour.
Oui, bonjour Radio Okapi et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On vous écoute, Joël.
Bon. Oui, bon, à mon avis, j'avais dit, les fonds de solidarité, comme tout fonds de l'État, en tout cas, nous avons quand même au début salué l'initiative. Mais subitement, depuis qu'on a, parlé à l'époque là de ces fonds, jusque-là, on a pris des nouvelles sur ces fonds. Maintenant, ils avaient plutôt la question de demander à l'invité parce que nous sentons avec les mouvements de l'inspection générale des finances, avec des contrôles partout, voire même dans des provinces, et nous voyons quand même des répercussions. Nous sentons quand même, il y a aussi même certaines arrestations fondées. Et nous saluons et nous encourageons. Mais ma question est celle à l'invité. Est-ce qu'il peut nous faire l'état des lieux de ces fonds? Parce que jusque-là, bon, depuis qu'on a commencé à l'époque de parler de ces fonds, on criait tout ça, et on sentait quand même que non, c'est quand même une bonne initiative. Alors, quel est maintenant l'état des lieux de ces fonds, si l'invité peut nous faire l'état des lieux, nous présenter, parce que jusque-là, on a pris des dernières nouvelles.
D'accord, merci Joël Aziz. John Odian, vous êtes à Isiro. Bonjour.
Bonjour Jean-Jody, bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation, John?
Merci pour m'accorder. Maintenant, le problème pays maintenant concernant le COVID-19. Maintenant, nous avons quand même, dans ce pays, nous sommes des spécialistes pour des bonnes initiatives, ce qui est quand même encourageant, mais ce que je déplore est qu'on initie le programme, il y a des bonnes idées, il y a des lois, mais l'application, la suite de tout ça, ça pose toujours problème. Concernant les récoltes des fonds pour quand même épauler le problème de COVID-19. Mais c'est très grave.
Qu'est-ce qui est grave, John?
Allô?
Oui, je disais, qu'est-ce qui est grave?
Ce qui est grave, c'est la gestion des fonds. La gestion des fonds, là, on ne sait même pas si c'est comment, parce que c'est ce que nous constatons ici, l'impact de ça, des récoltes, des fonds, des organismes locaux, l'international, l'impact de ça sur le terrain, on ne voit même pas, on ne sait même pas si la distribution qu'on a en train de chater sur tous les jours là, que nous on a distribué autant, mais chez nous ici, on ne voit rien. Là où nous sommes affectés dans notre province, même les gens qui nous disaient que non, c'est pour lutter contre ça, c'est sectoriel. Mais on voit seulement un groupe déjà, bon, on ne sait même pas, on n'associe même pas beaucoup déjà pour qu'on puisse quand même lutter efficacement sur ça. Vous voyez qu'il y a des légèretés à ce niveau-là parce que les gens qu'on avait dit que non,
oui, John,
c'est celle
vous
qui
voulez
va
dire que
la communication, c'est
oui,
celle qui va faire ceci.
Vous voulez...
tous ces gens ne sont pas motivés.
Vous voulez tout simplement dire que vous ne voyez pas encore les réalisations, tout ça, les dons de ces fonds de solidarité là où vous êtes à Isiro. Merci. L'invité va répondre tout à l'heure. Nous allons accueillir également Platini Mbombo de Mbandaka. Bonjour.
J'ai dit bonjour. Je salue l'invité. Je salue tout le monde.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Platini Mbombo?
Merci beaucoup, Jody. Je veux sincèrement vous remercier pour la thématique du jour. Bon, je crois que je salue d'abord cette initiative qui était déjà nommée depuis longtemps par le président de la République. Mais aujourd'hui, moi, je parle ici en cas de chez nous ici au niveau de l'Équateur. Bon, vous le savez très bien que l'Équateur vient de nous frapper à deux maladies, donc Covid-19 et aussi maladie à virus Ebola. Mais cette structure-là, je dis ici à l'Équateur, je ne sais pas qui est comme ça fait à faire la large diffusion au niveau de l'Équateur. Non. Parce que, je dis, si je peux être très loin, on a eu un peu le partenaire nous a vraiment appuyé sur la facilitation au niveau de cette double maladie. Mais vous le constatez avec moi qu'il y a beaucoup de cas et d'autonomie très faux. Et parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la mise à garde. Il n'y a pas une bonne politique de management. Donc sur le terrain, vous voyez que le médecin chef des zones fait des choses comme il veut. Il n'y a pas un arrangement à la mer avec l'autorité politico-administrative. Alors moi, je vais justement poser la question à l'invité. Au niveau des provinces, pour moi qui est censé à contrôler ces fonds-là au niveau des provinces, comme chez nous, c'est le compteur. Parce qu'ici, on ne connaît rien, personne ne le connaît. Alors je ne sais pas si ces fonds arrivent par quel mécanisme, et bien pour qu'il n'y ait pas voir ça, qu'est-ce qu'il faut. Parce qu'il y a d'autres provinces qui n'ont jamais touché de cette maladie, mais si nous, c'est le compteur, nous avons au moins toutes les maladies qui nous frappent à tout moment.
D'accord.
Et si l'invité peut dire le critère pour accéder, pour récupérer cet fonds-là, surtout en cas de chez nous ici à l'Équateur. Voilà, c'est je vais quand même contribuer à cette émission aujourd'hui.
Bien, merci Platini Mbombo de Mbandaka. Au Capi Service, nous parlons aujourd'hui du Fonds National des Solidarités contre Coronavirus. Comment fonctionne ce service spécialisé de la présidence de la République? Quelles sont les réalisations de ces fonds à ces jours? Eh bien, vous pouvez participer à cette émission en direct en composant le 081-890-63-94. Nous recevons aujourd'hui le révérend Dominique Moukania, coordonnateur de ce fonds national. Nous avons en ligne Glody de Bandundouville et Kachai de Kanyoka. Glody, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody. Bonjour également à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Capi.
On vous écoute,
merci
Glody.
Merci beaucoup pour la parole accordée. Nous saluons le sujet. C'est vraiment capital. Mais c'est que je passe directement aux questions pour poser à notre invité. Depuis que ce fonds-là a été commencé à louer, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement par rapport à ces fonds-là? Et parmi les 26 provinces, ils ont financé déjà combien de provinces? Parce que, par exemple, ici dans la ville de Bandundu, nous ne savons pas qu'il y a un fonds qui a été loué au Covid-19. C'est ma toute première fois d'entendre ça. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement dans les différents 26 provinces? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils peuvent nous donner juste les plans statistiques comme ça, on puisse comprendre ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Et la dernière question pour citer, qu'est-ce qu'ils ont l'envie de faire et ce qu'ils n'ont pas fait? Si l'invité nous expliquer ça correctement afin de bien comprendre les choses. Merci beaucoup.
Bien, merci. Kachai, vous êtes à Kanyoka, au Kassai Central. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour aux auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, Kachai.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Je suis vraiment aujourd'hui en joie de revenir sur la Radio Capi. Monsieur Jody, je voulais un peu demander à ceux-là qui gèrent les fonds de solidarité de COVID. Depuis que le cardinal Ambongo et le pasteur Bokondo avaient démissionné, on avait nommé quelqu'un d'autre. Bon, je ne le connais pas, moi personnellement, mais il a été nommé par le président de la République. N'y a-t-il pas même un rapport à mi-parcours qu'il peut présenter à la nation par rapport à sa gestion de ces fonds-là? Ça, c'est la première question.
Eh bien, le coordonnateur, c'est l'invité du jour, le révérend Dominique Moukania qui est notre invité.
Heureusement, c'est lui-même qui est là. Là, il peut bien répondre. Alors, il peut dire s'il a déjà présenté un rapport à mi-parcours en attendant la fin complète de COVID. Parce qu'ici, chez nous, vraiment, même si nous suivons qu'il y a encore résurgence des cas, mais jusqu'ici, parce qu'il y a des fonds qui ont été déjà donner des contributions de part et d'autre. N'y a-t-il pas un rapport qu'il peut d'abord présenter pour que nous puissions nous enquérir de ce rapport-là? La deuxième question. Mon prédécesseur a parlé des provinces. Ici, au Kasaï central, nous avons connu aussi des cas. Et par rapport à la gestion de ces cas-là, la gestion a coûté la vie à la suspension d'une responsable de division de la santé publique ici en province, qui ne preste plus à cause peut-être de la mauvaise gestion. Alors je ne sais pas, eux aussi à leur niveau. Quand ils attendent que s'ils allouent les fonds ont été mal gérés, qu'est-ce qu'ils en font? Troisièmement, c'est pour savoir, il y a un rapport de l'IGF qui a été publié par rapport à la mauvaise gestion du fonds. À la mauvaise gestion du fonds. Certains fonds, on ne savait pas...
Non, mais jusque-là, il n'y a pas encore un rapport accablant sur le Fonds national de solidarité contre Covid.
Mais c'est pourquoi le ministre de la Santé a été impliqué dans cette mauvaise gestion-là, M. Jody. C'est dans ce pays que nous avons suivi cela. Et il s'est rétracté pour donner une partie des fonds. Il a remis. Mais cela ne peut pas le dispenser de poursuite. C'est un peu ça. Alors c'est pourquoi je voulais un peu demander, comme le révérend Dominique Moukanya lui-même est là au studio, il peut éclairer la lanterne de tous les auditeurs pour que nous puissions en savoir plus.
D'accord. Merci. Révérend Dominique, vous avez la parole.
Monsieur Jody, je me sens dans la joie de m'adresser à tous nos auditeurs. Mais je voudrais donner une précision, qui est une précision de taille. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion avec le fonds et d'autres structures qui participent dans la riposte. Donc, de cela, il faudrait que chacun de nous comprenne qu'il y a le comité de riposte qui a sa responsabilité, il y a le ministère de la Santé qui a sa responsabilité, il y a le fonds qui a aussi sa responsabilité qui est définie clairement dans les ordonnances de mise en œuvre. Une autre précision que je voudrais donner avant de faire une synthèse, c'est que jusqu'ici, le fonds n'a pas encore reçu un appui du gouvernement. Que ce soit clair de ce côté-là. Donc nous n'avons pas encore reçu un appui du gouvernement, même si l'article 4 le dit, que le fonds est alimenté par l'État, mais jusqu'à ce jour, l'État n'a pas encore donné sa contribution.
Mais vous ne recevez que les contributions des particuliers.
Oui, justement, c'est nous qui mobilisons. Donc nous faisons de la mobilisation auprès des particuliers, des entreprises, des églises, et ce que nous avons récolté, c'est ce que nous avons affecté selon les prescrits de l'ordonnance. Et tout à l'heure, je vais faire une synthèse par rapport à ce que nous avons fait réaliser comme activité. Et vous comprendrez que nous ne pouvons pas aller partout puisque nous n'avons pas suffisamment de fonds, nous n'avons pas mobilisé suffisamment de fonds. Notre structure a été créée longtemps après qu'on ait déjà déclaré la pandémie et il y avait d'autres structures qui avaient mobilisé les fonds. Non, nous nous sommes venus un peu tard. Mais cela ne nous dispense pas de réaliser notre mission. Alors, par rapport aux provinces, je voudrais rassurer nos auditeurs que nous avons commencé ce travail pour montrer le caractère national du fonds. Nous avons commencé par la ville de Kinshasa. Je vais donner tout à l'heure les statistiques. Nous sommes allés dans la province du Congo central. Nous sommes allés dans la province, dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Nous nous apprêtons, je pense, la semaine prochaine à descendre au Nord-Kivu, aller au Nord-Kivu et Sud-Kivu, c'est déjà planifié. Les kits sont déjà envoyés par avion à Goma. Après, nous irons dans la province de la Tchopo. Après la Tchopo, nous allons redescendre dans la province du Kwango, dans le Grand Bandundu, et nous finirons par les provinces du nord du Haut-Katanga et du Lualaba. Alors, par rapport à une sorte d'état de lieu, je voudrais rappeler que régulièrement, nous faisons des points de presse pour, faire l'état des lieux, situer nos auditeurs à quel niveau nous sommes, qu'est-ce que nous sommes en train de réaliser. Nous le faisons régulièrement. Et au moment où je vous parle, nous sommes en train de finaliser le premier rapport pour le semestre que nous allons présenter au chef de l'État. Le rapport est déjà prêt, à mi-parcours, et nous allons le présenter au chef de l'État, puisque d'après l'ordonnance de mise en œuvre, nous sommes comptables directement devant le chef de l'État. Et ce que nous ferons, et nous reviendrons vers le public après pour faire cet état des lieux. Mais voici, de manière synthétique, qu'est-ce que nous avons fait. En termes de mobilisation, nous avons mobilisé en numéraire, donc en espèces, 1 553 150.70 $. Et je pourrais donner les détails des donateurs.
Depuis la mise en place du fonds jusqu'à ces jours, vous avez mobilisé ce montant-là.
Voilà, depuis la mise en place, puisque le fonds a été mis en place, ne l'oubliez pas, au mois d'avril, et il a commencé vraiment ses activités au mois de mai. Donc, depuis le mois de mai jusqu'à ce jour, en numéraire, nous avons mobilisé 1 553 150.70 $. Et en nature, nous avons mobilisé 1 222 194 $. Et en nature, c'est composé essentiellement des équipements de protection individuelle pour le personnel soignant et aussi des équipements pour les centres hospitaliers qui sont engagés dans la lutte contre la COVID-19. Si je peux donner quelques détails des donateurs pour que les choses soient claires. Bien sûr, il y a d'autres qui n'ont pas voulu, qui ont voulu plutôt garder l'anonymat. Donc, nous allons respecter ce principe-là. Il y a la sénatrice Muyumba Fura qui a donné sa contribution. Permettez que je ne donne pas les chiffres. Le député Ngudianza Bayokisa qui a donné sa contribution. Il y a une église de la Borne qui le pasteur a voulu qu'on garde l'anonymat, qui a aussi contribué. La société RTL, RDC, a contribué. La Caisse nationale, pour les sociétés, je peux donner bien sûr les montants. La société RTL a donné $100 000. La Caisse nationale de sécurité sociale a donné $1 000 000. La banque TMB a donné $250 000. Il y a un particulier qui a versé à la Rawbank $2 000. Il y a un honorable, Kiove Kola, qui a aussi contribué. Et aussi un autre particulier qui a requis l'anonymat, qui a contribué. Plus la contribution qui est venue de la remise et reprise entre nous et la Banque centrale qui avait commencé à mobiliser, qui est de l'ordre de $362 millions que nous avons convertis, plutôt 362 millions de francs congolais, je m'excuse, que nous avons convertis à peu près $180 000. Donc, c'est ce qui fait, qui donne le total de 101 553 150.70 $.
Bien, avec cette somme mobilisée, révérend, quelles sont les actions, comment vous avez fait les affectations, qui en sont les bénéficiaires, quels sont les critères de choix des bénéficiaires?
Ok. Avec ces fonds, nous avons fait des interventions dans les centres hospitaliers. D'abord, nous commençons par les 4 hôpitaux dans lesquels nous sommes intervenus. L'hôpital de Moncolé, où nous avons soutenu la prise en charge des malades COVID pour $150 000. Nous allons aux cliniques universitaires à qui nous avons fourni un groupe électrogène de 400 kVA, plus des respirateurs d'oxygène, des concentrateurs d'oxygène et d'autres équipements pour le même montant, pratiquement 150 000 dollars. Nous venons à Saint-Joseph où nous avons livré un groupe électrogène de 60 kVA et nous sommes en train de finaliser la passation des marchés pour les autres articles dont les respirateurs, concentrateurs et les lits que nous allons fournir. Nous venons de faire une livraison à Mamayemo il n'y a pas longtemps pour à peu près le même montant et c'était des lits. On a livré à Mamayemo à peu près 26 articles différents. Donc des lits médicalisés, des respirateurs, des matelas, de la literie, il y a beaucoup de choses. Et c'était passé sur les antennes de la télévision. Mmh. Ça, c'est les appuis en équipement pour soutenir la prise en charge COVID. Au-delà de ça, nous sommes allés livrer des équipements de protection individuelle dans les hôpitaux, à peu près, je ne vais pas donner les détails, ça fait 25 centres hospitaliers dans la ville de Kinshasa.
Qui ont été appuyés par le fonds.
Qui ont été appuyés par le fonds. Je peux vous donner les noms jusqu'aux petits détails, même les quantités.
D'accord. Vous avez les statistiques. Révérend Moukania, on va accueillir deux auditeurs. Alfred nous appelle de Bukavu et Jenny Mwanza de Kinshasa. Vous voulez également participer à cette émission. Nous parlons du fonctionnement du Fonds national de solidarité contre coronavirus. Composez le 081-890-63-94. Alfred, vous êtes à Bukavu. C'est plutôt Mouderoi de Bukavu. Mouderoi, bonjour.
Bonjour, jeudi, bonjour, le lecteur de Radio Capi.
On vous écoute, mon débat. Bon.
Concernant le faux de la solidarité, depuis que la COVID s'est ralentie, nous ne sommes plus au courant de l'évolution de cette dite caisse de solidarité. Mais aussi, nous ne savons pas comment ce faux se dissimule quand ça concerne la question de la COVID. Mais nous ne savons pas. Ce qui contribue à cette caisse, mais aussi j'avais une question. J'aimerais savoir, est-ce que l'on peut différencier le budget alloué à la COVID-19 au budget de solidarité ou à l'aide qui vient des pays étrangers?
D'accord, merci Mouderoi de Bukavu. Jenny Mwanza de Kinshasa, bonjour. Jenny n'est plus là. Révérend Dominique, vous avez la parole.
Ok, merci. Je réponds à l'auditeur de tout à l'heure. Le budget de l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusque-là, le fonds n'a pas encore reçu la contribution de l'État congolais. Nous sommes en voie et nous sommes dans les démarches maintenant pour que le fonds puisse recevoir des crédits budgétaires, mais pour l'exercice budgétaire 2021. Donc nous n'avons rien reçu pour l'exercice budgétaire 2020. Et de la même manière, aucun fonds des bailleurs, de tout ce que vous avez entendu, que ce soit Banque mondiale, Fonds monétaire, etc., nous n'avons rien reçu de ces bailleurs de fonds. Je l'ai dit, tout ce que nous avons utilisé jusque-là, nous l'avons...
Vous les mobilisez vous-même.
En respectant les dispositifs de l'article 4 qui définit l'origine des ressources du fonds. Et nous allons d'entreprise en entreprise, nous demandons des audiences, nous discutons avec les éventuels donateurs et quand ils répondent, nous avons des comptes en banque que nous indiquons et tout passe par les voies bancaires.
D'accord. Alors, une autre question je vous ai posée tout à l'heure. Quels sont les critères de choix des bénéficiaires de ce fonds?
Ok. Les critères de choix, c'est en fonction de notre cible. Nous avons trois cibles. Notre cible, c'est d'abord les hôpitaux et le personnel soignant. Et le critère, c'est d'abord les hôpitaux qui sont engagés dans la lutte contre la COVID-19. Mais un autre critère aussi que nous ajoutons, c'est que nous appuyons les centres hospitaliers qui sont dans les zones périphériques, qui reçoivent aussi des malades COVID dans la phase d'identification. Donc là, nous sommes obligés de les appuyer puisqu'il faut protéger le personnel soignant. Deuxième cible, c'est la communauté. Et là, nous voyons les groupes vulnérables. Et quand je parle des groupes vulnérables, je vois les personnes de troisième âge, les personnes vivant avec handicap, il y a les femmes, il y a les enfants. C'est dans ce cadre-là que nous avons organisé une activité. C'était dans le cadre de notre projet de sécurisation de la rentrée scolaire. Nous avons appuyé les écoles lorsque l'état d'urgence a été levé pour sécuriser la rentrée scolaire. Et j'ai encore la liste de toutes les coordinations que nous avons appuyées.
Bien. Alors, révérend, il y a une question qui vous a été posée. Est-ce que le Fonds national de solidarité contre le coronavirus a des représentations dans les 26 provinces du pays? Parce qu'il n'y a pas que les hôpitaux de Kinshasa qui ont besoin de votre appui. Il y a certaines provinces également qui en ont besoin.
Bien sûr. Et c'est, je l'ai dit, nous sommes allés à Lubumbashi. Donc, dans le Haut-Katanga, nous avons appuyé le comité de riposte du Haut-Katanga. Et au moment où je parle, si le ministre de la Santé, que je salue en passant, écoute cette émission, il va confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, nous avons appuyé le centre COVID du Haut-Katanga. Nous avons appuyé le centre COVID du Lualaba et le ministre de la Santé, que je salue encore aussi, il peut le
confirmer,
le certifier. Nous venons d'appuyer le Congo central. Nous avons appuyé à travers le ministère de la Santé à peu près 7 centres hospitaliers. On commence par le centre hospitalier Saint-Luc, Sonankulu, Imé. Nous sommes allés à Matadi à l'hôpital de Kinkanda, l'hôpital de référence. Nous sommes allés à Boma, l'hôpital général de Boma, l'hôpital de la Croix-Rouge. J'ai été décédé le premier président de la République, Joseph Kasavubu, paix à son âme. Et nous sommes allés aussi à l'hôpital de référence de Nkamba. Donc nous nous apprêtons à aller au Nord Kivu. Nous appuyons le comité de riposte du Nord Kivu et nous allons appuyer le comité de riposte de la province du Sud Kivu. Nous passons toujours par les structures gouvernementales, notamment le ministère provincial de la Santé dans les deux provinces.
Bien. Oui, révérend Dominique, un instant.
À Topo,
oui, un instant. On va accueillir Peter de Kolwezi et Jenny Mwanza de Kinshasa. Peter, bonjour.
Bonjour la Radio Capi. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Ma contribution est la celle-ci.
Oui.
Parce que nous voyons le Congo. Lorsqu'on dit le Congo, c'est-à-dire le gouvernement s'occupe seulement de quelques provinces seulement et d'autres provinces sont négligées totalement. Et dans d'autres provinces, même si on dit de telles choses, oh, les mesures barrières, dans d'autres provinces, on voit comme si c'était des rêves. Maintenant, c'est au gouvernement d'avoir ces soucis-là, de voir les pays entiers, tous les pays. Quand on dit le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa et Lubumbashi. Le Congo est un pays grand. C'est ça ma contribution à la radio Okapi.
Merci Peter. Jenny Mwanza de Kinshasa, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute Jenny.
Oui, je voudrais d'abord intervenir sur les critères de choix. Je pense que vous venez de d'énumérer. Et la deuxième chose, quand ils font... Et d'abord, ces critères-là, quand tu choisis les hôpitaux, alors le besoin, ce sont le responsable qui leur dit que c'est le besoin ou nécessairement eux-mêmes pense que non, on peut quand même les soutenir avec telle ou d'autres choses, comme ils ont parlé des groupes électrogènes et autres. Et deuxièmement, les choix. Les invités peuvent nous dire, quand ils ont choisi les hôpitaux, est-ce qu'ils pensent que normalement, ils ont touché directement aux problèmes qui peuvent normalement... donc, il suffisait seulement peut-être d'intervenir du côté population ou peut-être du côté des hôpitaux. C'est là où ils ont vu qu'il y a quand même l'accès. Et je voudrais savoir normalement, parce que selon moi, je sens que non, ils ne devaient pas toucher les hôpitaux, parce que les mêmes hôpitaux, ce sont là que le gouvernement est en train d'appuyer. Et à leur tour, devaient d'abord se tourner peut-être en distribuant des cachets en faisant de manière à ce que la propagation ne puisse pas se faire. Alors c'est ça ma contribution.
Bien, merci Jenny. Justin, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi. Bonjour à votre invité.
On vous écoute, Justin.
Oui, monsieur Jeudi, merci beaucoup pour la parole. Avant de poser la question que j'ai un peu une préoccupation. C'est un constat amer que j'ai pu constater ici à Lubumbashi. Il y a eu l'association, juste dès le début de la pandémie, il y a eu l'association des entreprises chinoises qui ont donné plus d'1 million de dollars avec les kits de protection, entre autres les masques et tant d'autres choses. Mais la population vulnérable n'a rien bénéficié de tout ça. Or, je viens d'entendre l'invité parler tout de suite qu'ils ont contribué avec l'équipe des reports d'ici à Lubumbashi et du côté de la Lab. Or, ces derniers, les provinces, toutes les deux provinces là, ont bénéficié des soutiens terribles avec les sociétés d'ici. Comment ils n'ont pas su gérer cet argent pour contribuer avec les équipes de riposte de la province? Ils ont juste bénéficié encore du soutien du fonds de caisse de quoi?
Du Fonds national de solidarité.
Oui, voilà. Or, ils ont bénéficié des soutiens locaux, les soutiens locaux, voulais-je dire, des sociétés
chinoise.
Ici, dans la province. Or, il y a des provinces comme à l'est là. Ils sont vulnérables. Ce sont des provinces qu'on devait se concentrer par la caisse en question. Ils devaient se concentrer là où il y a un grand besoin. Mais ici, je vous dis franchement, monsieur, j'ai dit, ils ont reçu beaucoup de. Mais ils n'ont rien fait avec. Ils attendent encore les soutiens des fonds des caisses de solidarité. Ce qui n'est pas du tout vrai. Et ma question est celle de savoir. L'argent que le gouvernement provincial bénéficie des associations, des entreprises et tant d'autres personnes de bonne volonté, est-ce que cet argent est mis dans la caisse de solidarité ou c'est dans la gestion privée de la province pour la pandémie ou c'est dans la gestion nationale qui est gérée par la caisse des fonds de solidarité? C'est un peu ça.
Bien, merci Justin de Lubumbashi. Alfred, vous êtes aussi dans la même ville à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation Alfred?
Oui, en fait j'ai des questions, je voulais savoir. Ce fonds-là qui a été créé contre la COVID-19, je voulais savoir, ces fonds-là, les bénéficiaires sont seulement les gens qui ont été atteints par cette maladie COVID-19 ou bien ceux-là aussi qui ont, par les conséquences dues à ce coronavirus, se trouvent dans l'impossibilité, dans l'incapacité de pouvoir continuer à travailler parce qu'il y en a ceux qui ont perdu leurs emplois, il y en a qui sont entrés en faillite, qui n'ont plus de possibilité à pouvoir continuer à travailler. Pour étant donné que les acquisitions étaient fermées à un moment, les choses ne marchaient pas. Qui sont les bénéficiaires et quels sont les critères qui sont mis pour que, si on remplit ces critères, on peut être bénéficiaire de ces fonds-là?
D'accord. Merci, Alfred. Jean Milongo nous appelle de Kisangani. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, l'invité.
Quelle est votre préoccupation, Jean?
Donc, juste, j'ai posé une question à notre invité.
Oui.
Ok. Compte tenu de la COVID-19, parce que j'ai écouté même le professeur Moyembe depuis hier, là, en train de faire l'émission à l'RTNC. Alors, je disais à ce que, est-ce qu'il y a l'hôpital normalement prévu pour ces patients ou comment? Parce que nous sommes en train de souffrir, monsieur le journaliste. On ne sait pas comment se retrouver bien. On a fait 5 mois au moins en train de souffrir et encore reconfiné de nouveau. Voyez d'abord les choses là. Donc c'est compliqué au moins.
Où est-ce qu'on a confiné? On n'est pas au courant qu'il y a eu confinement quelque part.
Donc on est en train de dire là, bientôt là on va reconfiner à partir du 24 décembre là. Noël et bonne année, on ne sait pas comment où on peut y aller.
Non, bon, jusque là officiellement il y a, ce ne sont que des rumeurs, il y a aucune décision qui a été annoncée jusque là par les autorités. Merci d'avoir appelé, Révérend Dominique Moukanya, vous avez la parole.
Merci, je vous dis pour la parole. Les besoins, comment les besoins sont évalués? Nous ne restons pas dans notre bureau en train d'inventer les besoins, mais nous sommes des hommes de terrain. Et quand vous remarquez bien sous les médias, nous avons fait la ronde des centres hospitaliers, même au Congo central. Avant d'intervenir, nous avons fait toute une mission d'évaluation. C'est ce que nous faisons. Et les besoins sont définis par les centres hospitaliers qui gèrent la prise en charge COVID. C'est eux qui définissent les besoins. Quand nous sommes allés remettre le groupe électrogène aux cliniques universitaires ou à l'hôpital Saint-Joseph, d'ailleurs, ce jour-là, il n'y avait pas de courant. Et le médecin, quand il recevait ce don, il a dit, cela vient à propos. Donc, ça répondait à un besoin. Et là, ça doit être clairement bien compris. Alors, par rapport à Lubumbashi, avec notre auditeur de tout à l'heure, c'est vrai, il ne m'appartient pas à moi de faire l'auditeur ou d'être inspecteur. Il y a l'inspection générale qui fait son travail et nous saluons le travail qui est fait. Mais, quant à moi, je n'ai pas les prérogatives de juger la gestion des uns et des autres. Ce que je sais, c'est qu'avant la création du fonds, il y a eu des structures qui ont mobilisé les ressources. Ces structures vont justifier ce qu'ils ont reçu acquis de droit. Mais du moment que le chef de l'État a mis en place la structure qui est le fonds, dès ce moment-là, il faut que cela soit entendu de tous, que c'est la seule structure qui centralise les donations financières, ce qui n'est pas le cas. Et les gens continuent toujours à recevoir de l'argent à gauche, à droite, et on est un peu dans cet imbroglio-là. Et dire que le chef de l'État l'a bien précisé dans son ordonnance que c'est le fonds est chargé de centraliser. Je suis en train de lire l'article 2 de l'ordonnance. Toutes les donations financières. Mais ce qui était fait avant notre existence ne nous engage pas. Si les Chinois au Katanga ont donné des fonds, eh bien, les responsables vont rendre compte le moment venu et ils le feront acquis de droit. Mais par rapport, comme on a dit, à l'argent du gouvernement provincial, est-ce que le gouvernement provincial met cet argent dans les caisses du fonds? C'est ce qui devrait se faire à partir du moment où le fonds a été créé. Les gouvernements provinciaux qui reçoivent des fonds dans le cadre de la solidarité contre Covid devraient honnêtement et logiquement les remettre, les rétrocéder au fonds pour que le fonds ait les moyens de sa politique. Ce qui n'est pas toujours le cas, je le dis clairement.
Alors, les effets.
Je termine par les effets.
Oui.
Notre ami qui a parlé des effets de Covid, effets économiques, cela est vrai et cela fait partie de notre troisième cible. Même ceux qui ont perdu l'emploi, ils doivent être soutenus. Mais là encore, M. Jody, c'est une question de moyens. On met une structure en place, il faut lui donner tous les moyens de sa politique. Nous ne pouvons pas tout faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 500 000 dollars? On ne peut pas servir les hôpitaux pour sauver des vies, équiper les hôpitaux, servir la communauté, tout ce qu'on peut faire.
Et puis soutenir les entreprises en faillite.
Voilà, on choisit les priorités. Et moi, je suis un humanitaire de, de profession. Chez les humanitaires, il y a un principe, c'est sauver les vies, préserver les vies et ensuite permettre un retour à une vie normale. Le premier critère, c'est sauver les vies. Donc nous devons d'abord sauver ceux qui sont en train de perdre leur vie. Et ce sont des priorités que nous puissions, que nous devons arranger lorsque nous sommes en train de faire notre plan stratégique.
Révérend Dominique Moukanya, on va bientôt clôturer cet entretien. Alors, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui voudraient apporter leur contribution, des personnes de bonne volonté ou des entreprises, comment procéder?
Bon, les entreprises, nous avons ouvert des comptes dans les entreprises, les banques suivantes, Robank. Nous avons un compte Robank. Nous avons deux comptes en dollars et en francs congolais. Nous avons un compte à Equity Bank. Nous avons un compte à Tembe et ici à Kinshasa et aussi à Lubumbashi. Nous avons un compte aussi à la FNB Bank. Donc, tout celui qui veut contribuer, ce que nous souhaitons d'ailleurs, puisque avec la deuxième vague qui se pointe à l'horizon et qui a commencé déjà à manifester ses effets, nous devons encore mobiliser suffisamment de fonds pour que nous puissions faire l'appui nécessaire aux structures qui attendent, qui sont dans le besoin. Donc, ils veulent contribuer, nous avons nos numéros de contact. Ils nous contactent, nous allons leur indiquer comment ils vont faire pour contribuer. Que ce soit en nature, oui. Que ce soit en espèces.
Un numéro par lequel on peut vous joindre ou joindre le fonds?
Le 081.
Oui.
700-700-51-72.
0-4... Oui.
0-0-81.
Oui.
7-0-0.
700, oui. 51-72.
51-72. Il y a aussi le 0-81.
Oui.
03. 06. 023.
023-081-03-06-023. Révérend Dominique Moukanya, je rappelle que vous êtes coordonnateur du Fonds national des solidarités contre coronavirus, une structure spécialisée de la présidence de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation et excellente journée.
Merci, M. Jodin.